À vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Des demandeurs d'asile au tribunal, ils sont installés avenue du Mail dans une maison de Bourg Habitat réquisitionnée par le collectif Solidarité Migrants. Le procès prévu la semaine dernière a été reporté. Nous étions sur place. Édition 2019 de l'opération J'apprends à nager, 10 heures de cours gratuits pour les jeunes qui ne savent pas nager. Objectif, leur apprendre à se mettre en sécurité. Interview avec des présidentes de clubs de natation de l'Ain. Parents, écoutez leurs conseils. Nouvelle immersion dans le savoir-faire local avec La Voix de l'Ain. Suivez-nous à la brasserie artisanale bio Les Deux Frères à Saint-Rémy et quelques infos en bref à la fin de ce magazine. 17 demandeurs d'asile se sont présentés jeudi dernier, le 6 juin, au tribunal de Bourg-en-Bresse. Bourg Habitat a porté plainte après l'occupation d'une maison lui appartenant à Avenue du Mail. Une maison vide réquisitionnée par le collectif Solidarité Migrants de Bourg pour y loger ces jeunes. La plupart est orientée par plusieurs villes de la région. Ils sont arrivés à Bourg-en-Bresse avec une notification pour se présenter à l'association Alpha 3A avec l'espoir d'une solution d'hébergement. Mais une fois sur place, pas possible de les loger et donc ils se sont retrouvés à la rue. Une situation inacceptable pour le collectif et plusieurs associations. D'autres arrivent encore et se retrouvent à la rue. À la sortie de l'audience, Carole Gerbeau, membre du collectif Solidarité Migrants de Bourg, prend la parole.
Ce qui a été dit devant la juge, c'est que l'avocat de Bourg Habitat n'avait pas eu le temps de répondre aux conclusions de notre avocat. Donc du coup, le report demandé a été accepté, a été mis au 4 juillet, en sachant que l'avocat de Bourg Habitat doit rendre ses conclusions il a jusqu'au 24 juin pour rendre ses conclusions suite aux nôtres, suite aux conclusions de notre avocat. Voilà, donc là c'est un report, tout simplement de l'audience. Moi je vais rajouter un tout petit mot, c'est que dans le cadre de cette audience, on était sur le cas d'une réquisition, hein, puisqu'on vient de réquisitionner un local qui était vide, et donc le président du... L'association DAL, droit au logement, va arriver à 9h47 au train là à Bourg. Il vient de Paris exprès pour nous. Donc évidemment, il ne pensait pas qu'il y aurait un report et il pensait qu'il y aurait une conférence de presse à la suite de l'audience. Donc il va venir. Il arrive dans 20 minutes. Voilà.
Donc le principal, c'est qu'on a obtenu un report jusqu'au 4 juillet. À cette date-là, on espère encore que la procédure sera repoussée. Et en attendant, on est en négociation avec Bourg Habitat et la mairie, donc le propriétaire des locaux occupés, avec l'exemple de conventions de mise à disposition précaires qui ont pu être signées notamment par la mairie de Grenoble. Bourg Habitat n'a pas fermé la porte à cette possibilité-là. On s'est quitté là-dessus hier, on était en rendez-vous là-bas et... On doit se revoir une fois qu'ils auront un petit peu étudié ces possibilités-là qu'ils ne connaissaient pas jusque-là.
Sur le trottoir, ici, il y a des militants. Les personnes qui habitent dans la maison du 90, qui est la maison qui est squattée, c'est pour cela qu'on est devant le tribunal. Et puis, il y a aussi les familles qui sont actuellement menacées d'expulsion du foyer Renoir à Bourg-en-Bresse. Elles sont menacées d'expulsion, on leur dit, et on dit aussi à ceux qui sont dehors, vous êtes dehors parce qu'il y en a qui ne veulent pas partir de là où ils sont. Donc en fait, celles à qui on demande de partir, c'est pour aller à la rue, et puis il y en a, enfin, vous imaginez, hein, voilà. Comment en France on s'empare des questions du logement ? C'est-à-dire qu'on imagine que c'est chacun son tour. Un coup, tu vas 15 jours dans une maison, et puis après, tu laisses la place à d'autres. Et puis, voilà. Hein. C'est comme ça qu'on ne sent pas des problèmes actuellement. En plus, ce qui est grave, c'est qu'on entend des espèces de discours qui disent « Ah ben, vous serez logés quand les Albanais sortiront ». C'est très grave. C'est très grave et c'est avec ça qu'on dresse les gens les uns contre les autres. Alors ici, on est ensemble, sur ce trottoir. Symboliquement, il y a les personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans, et puis les personnes qui sont là déjà depuis un certain nombre d'années. Hein, voilà. Et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits. Quiconque, sur notre territoire et ailleurs, a les mêmes droits en dignité. Ça, c'est la déclaration des droits de l'homme. Hein. Et notre phare, les militants qui sont ici, notre phare, c'est la déclaration des droits de l'homme. Et on se mettra pour l'égalité des droits. Et ben voilà, hein, j'ai terminé.
Au foyer Renoir, au mois d'avril, il y a eu 5 familles à qui il a été demandé de sortir du foyer. Ceci sans jugement. Et donc illégal. Peut-être qu'il conviendrait à ces familles d'être informées et de, qu'elles soient en posture de pouvoir porter plainte contre cette expulsion illégale, puisque sans décision de justice. D'autre part, 15 autres familles ont reçu donc un courrier demandant de partir. Là, on a eu le temps. C'est le collectif Solidarité Immigrants et puis d'autres associations, d'informer les familles de leurs droits. En étant informées de cela, elles n'ont pas quitté les lieux. Et pour l'instant, elles ont éprouvé le besoin d'écrire un courrier. Donc ce courrier indique que leur volonté, évidemment, n'est pas de se maintenir. Leur projet de vie, ce n'est pas de vivre en foyer. Elles souhaitent toutes pouvoir accéder à un logement favorable à une vie de famille. Pour cela, il faudrait que leur situation administrative évolue et qu'elles obtiennent tout simplement des papiers pour pouvoir rester en France, puisque pour un certain nombre, elles y sont déjà depuis 7 ans en France et elles ne voient pas leur avenir se dessiner. Voilà, donc elles souhaitaient faire ce courrier, le porter à la connaissance du préfet et du gestionnaire du foyer. Elles demandent qu'il y ait un entretien. Elles demandent à ce que la préfecture et le gestionnaire viennent à leur rencontre, elles puissent exprimer leurs désirs et trouver une solution de comment sortir du foyer sans être à la rue.
Jean-Baptiste Hérault, alias Babar, est le porte-parole fondateur de Droit au logement. L'association nationale a vu le jour en 1990. Ses membres ont toujours soutenu les occupations de logements vacants. L'année dernière, selon une étude de l'INSEE, la France comptait près de 3 millions de logements vacants. Des chiffres pointés du doigt par Jean-Baptiste Hérault, auxquels s'ajoutent d'autres facteurs.
Les loyers ont considérablement augmenté. La spéculation immobilière s'est emparée quasiment de l'ensemble du pays. Le foncier est de plus en plus cher et donc les locataires, les ménages modestes en général, qui sont de plus en plus locataires et de moins en moins propriétaires, payent des loyers et consacrent une part de plus en plus importante de leurs revenus pour se loger. On est sur des taux d'effort qui sont de l'ordre de 30, 40, 50, 60% pour pouvoir se maintenir dans son logement. C'est-à-dire que de plus en plus fréquemment, on va travailler la moitié du mois pour pouvoir avoir un toit. Bon. Donc ça, cette question du logement cher, voilà, ça c'est les expulsions, de fait, les expulsions locatives ont augmenté, de plus en plus de personnes sont dans nos rues.
Un triste tableau, mais Jean-Baptiste Hérault le dit, en 30 ans, il y a quand même eu des avancées.
Il faut rappeler qu'on construit encore dans notre pays beaucoup de logements sociaux, ce qui est une particularité qui sont liées aux mobilisations et aux luttes des mal-logés, des sans-logis, des associations qui les ont accompagnés. Quasiment la moitié des logements sociaux construits en Europe sont construits en France, sont réalisés en France. Donc ça veut dire qu'il y a encore un investissement public sur le sujet. Par ailleurs, on a obtenu un certain nombre d'avancées législatives au niveau de la reconnaissance des droits, du droit au logement, à commencer par le droit au logement opposable qui crée un droit individuel à être logé décemment et dans un logement social, ainsi que le droit à l'hébergement qui, comme vous le savez, est violé de manière constante. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes dans une phase où nous avons obtenu des avancées législatives qui renforcent les droits des occupants. Je reparle du droit à l'hébergement, il est prévu normalement jusqu'au relogement, le droit à l'hébergement. Hein. Donc on voit bien qu'il est violé, piétiné constamment. La loi Dalo est relativement mal appliquée. Donc nous, on a aussi des droits sur les questions de l'insalubrité, des occupants de logements insalubres.
Des avancées pour les droits individuels. Maintenant, le porte-parole de l'association Droit au logement attend leur mise en œuvre pleine et entière et des engagements de l'État français dans plusieurs domaines.
Il manque un engagement d'une part d'encadrer de limiter, de juguler la spéculation immobilière et foncière qui a en réalité a été encouragée par toutes les politiques publiques, aussi bien au niveau territorial qu'au niveau national, d'une part. D'autre part, de financer de manière beaucoup plus active l'accès au logement social, durable, stable des ménages modestes qui n'arrivent pas à se loger dans le parc locatif privé. Donc ça passe par des mesures d'urgence, c'est-à-dire l'application de la loi de réquisition pour loger toutes les personnes qui sont à la rue, la mobilisation des biens publics aussi, hein, puisque l'État déjà dispose d'un patrimoine assez important, mais également l'arrêt des expulsions sans relogement et le renforcement des APL, hein, qui ont été justement et très injustement limitées, réduites, et qui font l'objet de mesures d'économie chaque année, de mesures d'économie supplémentaires. Donc ce qui explique que les locataires voient leur taux d'effort augmenter, hein, et le nombre d'expulsions également augmenter chaque année.
Et Jean-Baptiste Hérault ajoute, l'État cherche à faire des économies sur le dos des ménages modestes.
On va le retrouver aussi bien dans les politiques de la santé, éducation, chômage, emploi. Donc l'État fait des cadeaux fiscaux aux plus riches et continue à faire des cadeaux fiscaux dans le domaine du logement aux propriétaires, aux investisseurs, aux grandes sociétés qui investissent dans l'immobilier, pendant que il fait des économies sur le dos des locataires et des ménages modestes. En réalité, avec un discours, plein de bonnes intentions, dégoulinant de bonnes intentions, en disant il faut s'occuper des sans-abri, zéro SDF dans notre pays, etc., etc., alors que par ailleurs, ils mènent des politiques qui dégradent la situation et ils laissent de plus en plus d'humains, d'êtres humains, d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes fragiles, vulnérables, personnes âgées, personnes handicapées, dans les rues ou dans des bidonvilles. La honte pour notre pays, voilà.
Jean-Baptiste Hérault, porte-parole et fondateur de l'association nationale Droit au logement. Cette dernière fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Le vendredi 14 juin à 19h au centre social Amédée Mercier, le collectif Solidarité Migrants Bourg-en-Bresse, l'ASDA 01 et la CIMAD organisent une soirée pour informer sur la procédure Dublin, ses conséquences et la situation à Bourg-en-Bresse.
Radio B.
On se rend compte qu'en France, on a toujours beaucoup d'enfants qui ne savent pas nager à leur entrée en sixième, ce qui est quand même de nos jours quelque chose de dramatique. En plus, un certain nombre de personnes ont de plus en plus de piscines chez eux, notamment des piscines hors sol qui sont maintenant faciles à installer. Donc il y a une réelle importance que nos enfants sachent nager. Et puis en sixième, on sait nager normalement.
Restez à l'écoute du 90 FM, on se retrouve dans quelques minutes.
Y'a qu'à danser, la mer nous donne du poisson. Y'a qu'à danser, les femmes nous donnent des enfants. Y'a qu'à danser, les étoiles nous guident dans l'océan. Y'a qu'à danser, regarder passer le temps. Sur une île du Pacifique, la nuit leur donne à deux enfants, un curieux et un sympathique. Qui écoutait passer le temps.
Peut-être.
Le premier, toujours en retard. L'autre debout tous les matins. Le premier a pris la guitare. L'autre étudia politicien. L'inspiré resta au village. Il devint simple musicien. Le pressé parti en voyage pour se faire oublier des siens. L'a étudié 10 ans à l'université. L'a étudié comment manager les gens. à étudier comment marche la planche à billets. Elle a fait un petit coup d'état, monter son petit gouvernement. Y'a qu'à danser, la main nous donne du poisson. Y'a qu'à danser, les femmes nous donnent des enfants. Y'a qu'à danser, la canne à sucre nous fait le rhum. Y'a qu'à danser et regarder passer le temps sur une île.
Zoufri Maracas sur Radio B avec Pacifique. Le groupe sera sur la scène du festival Luciole in the Sky ce samedi 15 juin. C'est organisé par la Cave à Musique de Mâcon. À vous les Burgiens sur Radio B 90 FM. L'été, c'est dans une dizaine de jours. À Bourg, Carédo ouvre ses bassins extérieurs ce samedi le 15 juin. Les propriétaires de piscines ont peut-être déjà fait quelques brasses. Certains attendront de partir en vacances et d'autres profiteront des zones de baignade du département. Bref, quel que soit l'endroit, le mieux, c'est de profiter de l'eau en toute sécurité. L'opération « J'apprends à nager » a été lancée il y a une dizaine d'années par le ministère des Sports. Son principe, 10 heures de cours gratuits pour les enfants qui ne savent pas nager. Nouveauté cette année, la tranche d'âge est élargie. Jusqu'à maintenant, c'était pour les 6-12 ans. Et depuis quelques mois, c'est pour les 4-12 ans. Anne Berthier est présidente du club de natation de Bourg.
On se rend compte qu'en France, on a toujours beaucoup d'enfants qui ne savent pas nager à leur entrée en sixième, ce qui est quand même de nos jours quelque chose de dramatique. En plus, un certain nombre de personnes ont de plus en plus de piscines chez eux, notamment des piscines hors sol qui sont maintenant faciles à installer. Donc il y a une réelle importance que nos enfants sachent nager. Et puis en sixième, on sait nager normalement.
Et donc oui, vous parlez donc des personnes qui ont de plus en plus de piscines. Selon une étude de l'Agence sanitaire santé publique, son enquête Noyade 2018, donc il y a 77% des décès. Donc des noyades accidentelles qui ont lieu dans la piscine familiale et donc toujours selon cette enquête, il y a une hausse du nombre de noyades accidentelles chez les enfants de moins de 6 ans donc par rapport à l'enquête de 2015. Qu'en pensez-vous ?
Il a fallu attendre des chiffres un petit peu alarmants de noyades pour se dire ben, nos enfants ne savent pas nager. Apprendre à nager fait partie d'une éducation d'un enfant, comme à mon avis savoir lire et écrire ou faire du vélo. C'est important et c'est pas le nombre de noyades qui doit conditionner ce genre de choses. Dans beaucoup de pays en Europe, les enfants apprennent à nager et vont systématiquement à la piscine avec l'école ou avec leurs parents ou dans d'autres structures, dans des clubs comme le nôtre. Donc voilà, en France, il faut qu'on fasse un effort pour éduquer nos enfants à la natation.
Et justement, donc vous avez vous accueillez des jeunes qui ont moins de 6 ans ?
Non. Alors, la répartition sur Bourg, nous, on prend les enfants à partir de 6 ans. Et le Carédo a tout à fait des structures adaptées pour accueillir des enfants en dessous de 6 ans. On n'accueille pas un enfant de 4 ans, et ça, la ministre, je ne sais pas si elle a bien réfléchi jusqu'au bout, mais on n'accueille pas, on n'apprend pas à nager un enfant de 4 ans comme un enfant de 6 ans. Le Carédo est bien équipé, a un bassin spécifique, a des structures spécifiques. Donc, en dessous de 6 ans, c'est le Carédo qui les prend en charge. Et nous, généralement, on prend les enfants au-delà de 6 ans.
Ce que vous dites que par rapport à cette décision d'élargir l'âge pour cette opération J'apprends à nager, c'est qu'ensuite, il faut avoir la structure derrière ou sinon le nombre d'entraîneurs suffisant.
Et le nombre d'entraîneurs, le nombre de créneaux horaires, le lieu adapté. Un exemple tout simple, entre la piscine Caria et la piscine Plein Soleil, la piscine Caria, je crois l'endroit le moins profond, fait 1,20 m, qui est tout à fait inadapté pour des enfants de 4 ans. Alors que la piscine Plein Soleil, de mémoire, ça doit être, je sais plus si c'est 80 cm, c'est beaucoup plus adapté.
Donc il manque des infrastructures pour accueillir donc les plus petits et des mesures qui soient prises vraiment pour leur permettre d'apprendre à nager au plus tôt.
En général, oui, mais sur Bourg, on a quand même 3 belles structures. Je crois qu'on a des collectivités locales qui ont eu à cœur de développer ces structures, de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau, à la natation. ce club, il a 90 ans, ce n'est pas pour rien. Je pense que la ville de Bourg a un passé de natation important et un très bel engagement. Donc je pense que sur Bourg, on n'est pas dans ce cas-là, mais dans d'autres endroits, bien sûr.
Donc, aujourd'hui, ça s'appelle « J'apprends à nager », mais avant, ça s'appelait « Savoir nager », et c'est une appellation qui vous convient mieux.
Après, c'est un avis tout à fait personnel. Hein. Je ne pense pas que ce terme soit vraiment très approprié, ni l'un ni l'autre. On essaie de faire croire qu'on peut apprendre à nager en disséance, ce qui n'est absolument pas le cas. En disséance, on peut apprendre à se mettre hors danger si on tombe dans l'eau ou si on a un accident au bord d'une piscine, mais en disséance, on n'apprend pas à nager. Je pense qu'il faut bien plus, bien davantage pour apprendre à nager. Donc savoir nager ou j'apprends à nager, ça, voilà, je pense que le terme n'est pas tout à fait exact pour cette opération en tous les cas.
Vous proposez donc cette opération, donc c'est cours gratuits, donc de 10 heures pendant les vacances scolaires, donc hors la période estivale. Et sur quoi vous insistez pendant ces séances ?
Appréhender ce milieu qui est totalement différent de la terre ferme. C'est vraiment un milieu très spécifique. On connaît tous la poussée d'Archimède, etc. Ça implique quand même des comportements différents, une perception du corps totalement différente. Et surtout, on essaye aussi que les enfants n'en aient pas peur, qu'on arrive tout à fait à l'apprivoiser et en faire un ami, et par la suite apprendre à nager et se faire plaisir.
Quel conseil vous donneriez aux parents à l'approche de l'été, donc ces moments où on va être proche des piscines et qu'on va aller profiter de la mer?
Surtout ne pas faire les choses au dernier moment, bien sûr. Souvent on se dit, mince, on va aller à la mer, allez, comment je fais pour que mon enfant soit en sécurité? Alors déjà, il existe plein de systèmes, hein, des ceintures, des maillots de bain avec des flotteurs intégrés, il existe des brassards, beaucoup de choses existent. Après, un enfant ne laisse pas sans surveillance, c'est la moindre des choses, c'est le béaba de tout parent, de ne pas laisser ses enfants sans surveillance au bord de l'eau. On peut se noyer dans très très peu d'eau sans aucun problème.
Donc, avoir un bon équipement, n'empêche pas, n'exclut pas le fait de toujours surveiller son enfant quand il est proche de l'eau.
Exactement, voilà, ça semble absolument évident et c'est ce qui est le plus facile à faire finalement.
Et au niveau des équipements, est-ce qu'il y en a un qui est plus à privilégier qu'un autre?
Ça dépend de chaque enfant, je pense. Il y a des enfants qui seront à l'aise déjà avec une ceinture, d'autres qui seront à l'aise avec des brassards. Je pense qu'il faut essayer et voir comment se comporte l'enfant.
Anne Berti, présidente du club de natation de Bourg. Ce dernier participe à l'opération « J'apprends à nager » du ministère des Sports pendant les vacances scolaires, pas la période estivale, et ça depuis 4 saisons. Nicole Truch est présidente du CNBV, le Cercle des nageurs de Bellegarde sur Valserine. Le club propose depuis 6 ans, pendant l'été, toujours dans le cadre de l'opération « J'apprends à nager », des cours gratuits pour les jeunes. Sa présidente le jugeait nécessaire pour les enfants. Environ 30% des jeunes qui ont bénéficié de cette action reviennent ensuite au Cercle des nageurs de Bellegarde sur Valserine pour apprendre les bons gestes et se perfectionner.
Il y a des enfants qui savent déjà très bien faire de la brasse sous l'eau, mais qui n'ont aucune notion de l'eau, de la flottaison malgré tout, et qui peuvent se retrouver vite en danger. Et il y a d'autres qui ont très très peur de l'eau, parce que déjà les parents ont peur de l'eau eux-mêmes.
Donc le stage doit durer au minimum 10 heures. Sur quoi vous insistez avec eux?
Eh bien, on insiste à ce qu'ils savent flotter sur le ventre, sur le dos, qu'ils savent aller chercher un objet au fond de l'eau, donc déjà plongé, et qu'ils arrivent à faire, je dirais, 15 mètres sur le ventre et 15 mètres sur le dos.
À la fin des cours, il y a le test sauve-nage pour valider les compétences des enfants.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui est prévu?
Eh bien, le sauve-nage, il consiste justement à faire une flottaison sur le ventre et sur le dos, essayer de faire les 25 mètres en aller et 25 mètres en retour, et d'aller chercher un objet au fond de l'eau. Donc c'est vrai qu'au bout de 10 heures, les petits n'y arrivent pas forcément, il manquerait encore 5 heures. Mais ils ont déjà une bonne notion, il faut continuer. Et normalement, ils flottent, et ils savent se sortir de l'eau. On leur apprend à respirer, justement, à souffler, et ne pas, justement, ouvrir la bouche et boire. Je pense que chaque parent qui a une piscine personnelle devrait apprendre aussi à ses enfants à flotter et à respirer. Ça éviterait déjà pas mal de choses. Et moi, je pense que ces piscines personnelles, c'est surtout un problème de surveillance. Il faut prendre conscience qu'un enfant, il ne faut pas lui laisser faire n'importe quoi. Et c'est comme tout. C'est un enfant à surveiller. À cet âge-là, on n'a pas conscience du danger.
Nicole Truche, présidente du CNBV, le Cercle des nageurs de Bellegarde-sur-Valserine. Le club préfère attendre l'année prochaine pour proposer l'opération « J'apprends à nager » aux enfants à partir de 4 ans, ce qui demande une autre organisation pour le club. Un seul entraîneur est aujourd'hui disponible pour cette opération. Les enfants de moins de 6 ans doivent être dans un groupe spécifique. Donc pour cet été, ça sera une nouvelle fois pour les 6-12 ans. D'autres clubs du département devraient participer à cette opération. Le club d'Oyonnax et celui du Pays de Gex. Dans l'agglomération de Bourg, cet été, la Plaine Tonique à Montrevel et Carédo à Bourg propose des stages d'apprentissage ou de perfectionnement du 8 juillet au 30 août. Le reste de l'année, Carédo propose Aqua Bébé pour les enfants de 6 mois à 4 ans. De 4 ans à 5 ans, c'est le jardin aquatique, des exercices pour savoir se déplacer de quelques mètres dans l'eau ou encore sauter. Ensuite, des cours sont proposés pour les enfants et les adultes. À la Plaine Tonique, l'école de natation est accessible dès l'âge de 5 ans. À noter, à la rentrée 2019, tous les CM1 apprendront à nager gratuitement avec leur classe. C'est une décision de l'agglo du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse. C'est déjà le cas pour les CE1 depuis la rentrée 2017. Au total, 5000 élèves seront concernés. Autre mesure cette fois du gouvernement, ce dernier veut tester l'apprentissage de la natation dès la maternelle. Deux classes parisiennes étaient concernées en avril dernier. Dans une interview au quotidien Le Parisien, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, l'a précisé, je la cite, « Une fois que cette expérimentation aura porté ses fruits, toutes les écoles de France pourront dès l'an prochain participer à ce dispositif. On a déjà reçu des dossiers de candidature. » La ministre souhaite aussi la création de classe piscine sur le modèle de celle de neige. Avant de refermer cette page natation, des conseils aux parents du ministère de l'Intérieur à retrouver aussi sur la page Facebook de la gendarmerie de l'Ain. Baignez-vous avec vos enfants, méfiez-vous des bouées et autres objets flottants, ils ne protègent pas de la noyade. Après la baignade, sortez tous les jouets de l'eau pour ne pas tenter les enfants et remettez en place les dispositifs de sécurité.
Radio B.
Une fois par mois, en partenariat avec l'hebdomadaire La Voix de l'Ain, nous vous proposons une immersion dans le savoir-faire local. Aujourd'hui, on vous emmène à Saint-Rémy, à quelques kilomètres de Bourg, dans la brasserie artisanale bio Les Deux Frères. La bière qui fait gazouiller, peut-être avez-vous déjà vu son logo. Alors ce sont deux oiseaux posés côte à côte sur une branche. Éducatrice spécialisée dans le social pendant près de 20 ans, Nelly Viseux a quitté son emploi pour s'occuper de ses enfants. Tentée par une reconversion professionnelle, elle a rencontré plusieurs brasseurs qui lui font découvrir ce métier. Devenir brasseuse à son tour, un projet surréaliste au début pour l'amatrice de bière, mais très intéressant pour elle qui adore cuisiner. Nelly Viseux le dit, une bière, ça se partage. Le nom Les Deux Frères est comme une évidence. Elle découvre les bières artisanales et leur diversité et veut y mettre sa touche personnelle. Elle choisit une production bio à son image.
Je suis quelqu'un en fait qui consomme bio, qui essaye en fait d'œuvrer pour l'environnement. Et enfin, il était difficile pour moi d'envisager cette activité autrement, quoi. Du coup, j'ai mis en place tout un tas de choses comme le recyclage des bouteilles. Donc, je fais relaver mes bouteilles par une entreprise qui s'occupe de ça. Je récupère aussi mes cartons, voilà.
Sa bière est bio depuis le début, mais le label est arrivé plus tard.
Au départ, je partageais en fait une brasserie avec un autre brasseur, donc la brasserie des Trois Épis à Orgelet, qui me prêtait ses locaux parce que je n'avais pas de local. Et lui, il était en conventionnel. Donc, il paraissait assez complexe. Enfin, c'était difficile de demander la labellisation pour un lieu qui n'était pas le mien, etc. Donc, en fait, je suis labellisée depuis que je suis ici, c'est-à-dire depuis début d'année dernière, un an et demi, on va dire.
La bière des deux frères est aujourd'hui labellisée bio sans dérogation.
Je préfère à un moment donné changer ma recette, c'est-à-dire utiliser des houblons, parce qu'on a des difficultés en fait à trouver des houblons bio, plutôt que de demander une dérogation. Ça me paraît avoir plus de sens. Mes clients me connaissent, voilà, ils savent que c'est comme ça.
Ces bières sont peu houblonnées, plutôt de type belge, maltais.
Au niveau de la matière première, je recherche des houblons et des maltes donc d'orge et autres qui sont français dans la limite du possible. Donc j'ai l'année dernière pas mal travaillé avec du malt franc-comtois, de l'orge franc-comtoise qui était donc torréfié quand même à la malterie du château en Belgique, qui est mon autre fournisseur. Sinon, au niveau des houblons, bah, je travaille avec Copoudal, qui est une houblonnière d'Alsace. Et puis, j'envisage aussi d'étudier des propositions qui me sont faites actuellement par d'autres houblonnières qui se créent.
Nelly Viseux produit des bières à son goût et elle apprécie d'être son propre patron.
J'aménage mon temps comme je veux. Ça ne veut pas dire que je travaille moins, hein, loin de là. Je travaille bien plus. Mais en tout cas, je fais comme je veux. Et ça, c'est très important pour moi. Parce que j'ai des enfants et puis parce que j'aime bien être libre, on va dire, de faire comme je veux.
Une production qu'elle réalise seule de A à Z.
Je brasse, j'embouteille, j'étiquette, je commercialise, je recherche des nouveaux clients. Je fais ma comptabilité et je reçois mes clients ici aussi, bien sûr, avec des permanences, 3 fois par semaine.
On suit maintenant Nelly Viseux dans les coulisses de la fabrication de la bière Les Deux Frères.
Là, on est en face de ma cuve d'empattage, qui est une cuve qui a une capacité de production de 1000 litres. Donc, vous voyez, elle est en hauteur pour me permettre de travailler en gravité. C'est-à-dire qu'au départ, lorsqu'on fabrique une bière, donc on va infuser en fait le grain et on va fonctionner par palier pour obtenir ce qu'on veut, extraire les sucres qu'on veut, etc. et obtenir une bière plus ou moins alcoolisée. Donc, avec cette cuve, on fait notre infusion. On va ensuite filtrer notre bière sur la cuve qui se trouve là en dessous et rincer en fait le grain. On envoie tout dans la cuve de filtration et rincer le grain pour extraire un maximum de sucre. Parce que c'est ce sucre qu'on va extraire qui va nous donner l'alcool lors de la fermentation. Suite à ça, on rebalance le moût de bière dans la cuve d'empattage et on fait bouillir pour la stériliser et pour y ajouter les épices qu'on souhaite. Alors, c'est là qu'on rajoute le houblon. Donc là, on va porter à ébullition et les épices, comme par exemple le gingembre ou autre. Une fois donc qu'on a stérilisé notre bière, qu'on a mis nos épices, on va envoyer notre bière dans les cuves qui se trouvent là, donc qui sont des fermenteurs, cuves de fermentation, mais en la refroidissant auparavant, parce que comme on va en fait l'ensemencer avec des levures pour la faire fermenter, les levures ne supportent pas une certaine température, enfin des températures trop hautes. Donc on va passer par cet outil que vous voyez là, qui est un refroidisseur à plaque et à circuit inversé. Donc une fois qu'on a envoyé la bière autour, moi j'ensemence autour des 20 degrés. Donc là, eh bien, on met des levures déshydratées qui, en consommant le sucre qui se trouve dans la bière, va en fait se multiplier et produire de l'alcool. Ça, c'est un processus qui va prendre 3-4 jours de manière assez active. Et ensuite, il y aura une phase où petit à petit, les levures vont se déposer. Elles travaillent encore un petit peu, mais de manière moins active qu'au départ. Et tout ce qui est dépôt va reposer en bas de la cuve. Au bout de ces 3 semaines, on embouteille ou on enfute. Donc une fois que j'ai embouteillé, eh bien, je mets toute ma bière dans ma salle de fermentation à 24 degrés. Et ça pendant encore 3 semaines. Suite à quoi, après, je peux la vendre, quoi.
Une fois que les bières sortent de la salle de fermentation, Nelly Viseux les laisse reposer encore un peu avant de les mettre dans le circuit de vente. En général, elle les vend au bout de 2 mois environ. En 2018, Nelly Viseux a produit 24 000 litres de bière. Elle pourrait produire le double, donc à un moment, elle devra embaucher. Mais pour l'instant, elle est bien toute seule et elle y va progressivement sans se mettre la pression. Ces bières sont vendues dans l'Ain, mais pas que. Vous pouvez aussi les trouver chez des cavistes et des bars lyonnais. Mais Nelly Viseux privilégie quand même une distribution locale et les circuits courts. Ce vendredi, le 14 juin, dans l'hebdomadaire La Voix de l'Ain, ne manquez pas l'article de Corinne Garret pour en savoir plus sur son parcours. On vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Radio B. Radio B.
Quelques infos en bref. La CPAM de l'Ain et Diabète 01 organise une après-midi de prévention, dépistage et conseils pour prévenir le diabète et les maladies cardiovasculaires. Un rendez-vous organisé pour la Semaine nationale de prévention du diabète. C'est ce mercredi 12 juin au Centre d'examen de santé, 12 bis rue Pavé d'Amour à Bourg, de 13h30 à 16h30. C'est ouvert à tous. Le bac, c'est dans une semaine. Première épreuve, la philo, le 17 juin. La dernière chronique, passe ton bac d'abord pour réviser, grâce au travail d'élèves du lycée Saint-Pierre, le programme d'histoire géo. C'est ce mercredi, le 12 juin, à 7h30, 8h30 et 12h30 sur le 90FM. Une chronique sur le Proche et le Moyen-Orient. Retrouvez toutes les chroniques sur notre site radio-b.fr dans la rubrique « Les émissions » et la sous-rubrique « Société ». Dispositif spécial dans les médiathèques Césaire et Vaillant de Bourg jusqu'à samedi le 15 juin. Horaire d'ouverture élargi, aide à la révision avec des profs de maths, éco, histoire géo et physique. Wi-Fi gratuit et des espaces de travail à l'intérieur et à l'extérieur. Bon courage à toutes et à tous pour les révisions. Bouvant en mode été, reprise des activités sportives gratuites, c'est les samedis et dimanches matin de 10h à 11h jusqu'au 25 août. Au programme Qigong, cardio combat, zumba ou encore yoga, programme complet sur le site de la ville bourg-en-bresse.fr. À noter, l'accès à Bouvant est payant pendant l'été jusqu'au 1er septembre, mais l'entrée reste gratuite pour les Burgiens. Seule condition, avoir chacune sa carte. Nouveauté cette année, faites votre demande en ligne sur bourg-en-bresse.fr. Il faut envoyer un justificatif de domicile et payer 3 euros pour la fabrication de la carte. Vous pouvez aussi l'acheter directement à la mairie, à la maison de quartier des Vennes et au pôle Amédée Mercier. Dernière info sur Bouvant, le parc fait peau neuve avec de nouveaux espaces détente et jeux, chaises longues, village indien avec entre autres tipi et pont de singe, une tyrolienne pour enfants et un mur d'escalade. Des nouveautés aussi du côté de la zone baignade, une plateforme à 50 mètres de la plage, un toboggan fixe près du petit bassin ou encore de nouvelles cabines pour se changer. Et pour terminer, une info promenade, une grande boucle sera créée d'ici 2020. Le samedi 29 juin, la ville vous invite pour l'inauguration à 11h. L'accès au parc sera gratuit pour tous. Une question pour les ados et ce bientôt dans le monde du travail. Connaissez-vous tous les moyens pour vous déplacer? La mission locale de Bourg et plusieurs partenaires comme le pôle sécurité routière de l'Ain organisent un forum mobilité le mercredi 12 juin de 14h à 17h. Découverte des aides possibles financières pour un abonnement de bus, un plein d'essence et quelques leçons de conduite ou encore pour financer son permis de conduire et des infos sur l'écomobilité et le covoiturage. C'est à la mission locale au 5 Terre Avenue des Sports à Bourg. Les Colibris de Bourg-en-Bresse s'interrogent sur les lieux où nous vivons et sur les alternatives, comme l'habitat participatif. Réunion publique ce jeudi 13 juin à 19h, 8 rue Alphonse Masse, entre la rue de la Citadelle et l'ancienne caserne Aubry. Un lieu pas choisi par hasard, c'est là où va s'installer le premier habitat participatif de Bourg-en-Bresse. Un repas partagé est prévu après la réunion. Apportez quelque chose et vos couverts. Toutes les infos sur le site des Colibris. Colibri-wiki.org. Avis aux gourmands et aux gourmandes. Ça vous dit de déguster dans un seul endroit des plats du Sénégal, de Turquie, d'Amérique latine ou encore du Tibet. La journée gastronomique des communautés étrangères, c'est le dimanche 16 juin au marché couvert de Bourg de 10h à 18h. Vous pourrez manger sur place ou emporter toutes ces saveurs chez vous. Plusieurs groupes de musique se succéderont toute la journée. C'est organisé par l'association Impact. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h et à tout moment sur notre site radio-b.fr.